Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours, de 15h à 16h. Alors cet après-midi, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons choisis pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord un peu de nutrition. On vous propose de prévenir et de soigner l'inflammation chronique qui peut causer pas mal de maladies, mais ce, depuis votre assiette. Mais avant ça, place à un autre sujet très concernant lui aussi, comment aborder les problèmes de drogue ou même de tabac avec les adolescents. Bien sûr, on préférerait qu'ils ne touche jamais à toutes ces substances, mais comment faire? Comment réagir en tant que parent si c'est malheureusement le cas? Pour nous éclairer sur ce sujet sensible, nous avions reçu en studio le professeur et addictologue Laurent Carilla.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un premier temps, on va peut-être essayer de poser un peu le problème. Est-ce qu'on a un chiffre, par exemple, concernant l'alcool ou le cannabis? À quel âge, en moyenne, les ados font leur première expérimentation en France en 2020?
Bon, on est dans des chiffres assez standards, quoi. En France, déjà, l'alcool, c'est comme une entité nationale, donc c'est même un marqueur social, et les parents font goûter l'alcool aux enfants, donc il y en a qui peuvent goûter très tôt, mais on va dire les premières grandes consommations, c'est les premières, là, en 2020, c'est les premières fêtes, c'est genre quand on est en troisième, à peu près, en dehors des contextes familiaux, hein, j'entends.
Bien
le
sûr.
Tabac, c'est à peu près la même chose, et le cannabis aussi.
Beaucoup plus tôt qu'avant, ou pas?
Oui,
parce qu'on se dit toujours
tôt,
les jeunes aujourd'hui font n'importe quoi.
Les initiations sont plus précoces, c'est entre 12-13 ans, l'initiation.
Jimmy ?
Il y a peut-être une différence entre initiation et première ivresse. Qu'on sait dans quelle situation, justement, ils vont avoir lieu cette première ivresse à l'occasion de fêtes?
C'est plutôt des fêtes, C'est d'abord, la question de l'alcool, c'est autour du binge drinking, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils sont en groupe, l'idée, c'est pas d'être défoncé tout seul. L'idée, c'est ce rituel de on va tous boire très très vite pour être ivre très très vite. Parce qu'il y a quand même cette image aussi de ma première ivresse, c'est quand même un marqueur de je deviens un peu comme un adulte, quoi.
Mais oui.
Le tabac, ça a un peu reculé. Il y a la vape.
C'est un peu plus has-been, le tabac.
Peu plus has-been. Et c'est vrai qu'ils sont plus vers la vape. Donc c'est autre chose, la vape. Hein, mais bon, il y en a qui testent plus la vape que le tabac, la clope. La cigarette. Et après, pour le cannabis, c'est toujours très, très présent, le cannabis. La résine et l'herbe est très présente. Il y a une culture autour de l'herbe. Elle est quand même liée à la culture musicale, qui est forte.
Et puis, une espèce de fausse idée de « c'est pas si mauvais que ça ».
Il y a toujours ce truc de drogue douce, drogue dure. C'est un truc qui c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même cet élément-là. Donc, on est dans... l'alcool, oui, le tabac, il y en a qui vapotent, et puis il y a le cannabis.
Est-ce qu'on peut dire que les ados, justement, parce que là on a cité quelques-unes des substances qui peuvent nous inquiéter quand elles sont consommées en excès ou tout court chez les ados, est-ce qu'on sait s'ils sont plus polyconsommateurs que les jeunes l'été, j'en sais rien, aux époques de Jimmy ou de votre jeunesse à vous?
Je ne suis pas très vieux, Mélanie.
Franchement,
j'ai 35 ans.
Oui, comme nous, voilà.
On est plutôt dans un profil de polyconsommation. On a un profil aussi de consommation très, très différente parce qu'il y a aussi les écrans et les réseaux sociaux qui véhiculent quand même plein de messages et des messages de consommation aussi. Il y a le protoxyde d'azote qui est présent. C'est pas
très inquiétant en ce moment.
C'est un peu inquiétant. Il y a la cocaïne qui est beaucoup plus démocratisée. Donc, ce n'est pas un appel à consommer tous ces produits. Il y a la MDMA, il faut en parler parce que c'est une catastrophe.
Mais la cocaïne, il y a 10 ans, ce n'était pas tellement un truc d'ado.
Non,
quoi,
la cocaïne, quand vous étiez
vieux,
jeune, Mélanie, et c'était très cher.
Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais essayé.
Mais c'était très cher. Et là, maintenant,
c'est pas très cher.
Non, on peut se l'acheter à 4, 5. Chacun met un petit billet de 5, 10 euros.
À 15 ans, il y en a, vous en avez des patients qui ont déjà essayé?
Non, je ne vois pas de patients qui ont déjà essayé de la cocaïne, mais dans l'histoire des patients jeunes, on voit qu'eux, ils ont déjà expérimenté la cocaïne très tôt.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a un impact du niveau socio-économique, notamment celui des parents ? Est-ce qu'on pourrait croire que plus les parents ont fait de grandes études et moins l'enfant est à risque, ou peut-être l'inverse ?
Non, il n'y a plus cette distinction classe sociale, en tout cas sur tous les produits. C'est plutôt un phénomène de masse de consommation. Alors tout le monde ne consomme pas, heureusement, mais en France, quand même, on est quand même un des premiers pays européens à consommer du cannabis. Donc c'est une vraie question, et c'est en rapport quand même avec tout ce qui est fait autour, en termes de politique, etc.
Quand j'étais jeune, on disait surtout que c'était les garçons qui faisaient ce genre de bêtises-là, qui testaient des substances, etc. Est-ce qu'aujourd'hui,
les filles rattrapent sur l'alcool, les filles rattrapent
aussi.
Sur le cannabis aussi, les filles prennent du proto, les filles prennent de la MDMA en soirée. Alors, on n'est pas dans un modèle où tout le monde consomme tous les jours, mais bon, quand même, il y a quand même toujours ce marqueur d'identité. Je commence à grandir.
Et ça se lisse sur les deux sexes.
Ça se rapproche.
Jimmy ?
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ado qui décide de boire ou de fumer ? Est-ce que c'est le sentiment de toute puissance ? Parce qu'on aura beau leur dire attention 1000 fois, on a l'impression que le message peut ne pas passer.
Bah, y a un phénomène quand même, encore une fois, de modeling, c'est-à-dire on est dans, c'est plutôt un phénomène dans des soirées, par exemple, dans des anniversaires, etc. C'est-à-dire que à 15 ans, on arrive en soirée avec des bouteilles d'alcool fort, par exemple. Donc, il y a ce truc de on va boire, on est grand, on change.
C'est cette époque où on veut se démarquer des parents.
Oui, oui. Ouais. Et de toute façon, dire le message ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas, ce n'est pas fonctionnel comme message. C'est plutôt il faut préparer les enfants, les ados à aller en soirée.
Ça, on va en parler après. Mais vous pensez que. Est-ce que justement, il faut être. Sur les détails, on y reviendra. Mais vous pensez que les parents doivent vraiment s'immiscer beaucoup sur cette question avec leur ado, là, en parler beaucoup? Ou est-ce que finalement, de toute façon, s'ils doivent faire des bêtises, ils les feront?
Moi, je crois que les parents doivent parler avec leurs enfants avant qu'ils soient ados, même. Donc, c'est un point vraiment très, très important et de manière très, très générale. Je veux dire, la Société américaine de pédiatrie disait qu'il faut parler d'alcool aux enfants à 8-9 ans. Donc, oui, il faut parler tôt d'alcool aux enfants, il faut parler tôt de drogue aux enfants, il faut parler tôt de tabac aux enfants.
Professeur Carilla, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
Oui.
Cet après-midi avec vous, on parle donc de consommation à risque des ados. Et justement, je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents ou de grands-parents qui nous écoutent et qui peut-être s'interrogent sur leur enfant, leur ado à la maison. Est-ce qu'un enfant par exemple qui fume du cannabis par exemple, ben, ça se voit tout de suite, les yeux rouges, tout ça? J'en connais qui disent « moi je le verrai à coup sûr ».
Non, non, on ne le voit pas tout de suite, mais on peut voir certains éléments, des changements de comportement par exemple. Mais quelqu'un qui goûte pour une première fois du cannabis, on ne le voit pas comme ça. C'est plutôt sur un phénomène de consommation.
Quand
qui
la
est plutôt
consommation
répété,
devient régulière.
Ouais, répété,
ça.
Régulier, on voit des changements de comportement, des odeurs sur les habits, les yeux rouges, même des changements de comportement à la maison, à l'école, tous ces éléments-là qui sont complètement indirects, eh ben, ça peut évoquer.
Jimmy ?
Mais est-ce que le Covid, d'ailleurs, a un impact sur la consommation du cannabis? S'ils se retrouvent ensemble, est-ce qu'ils vont plus fumer ou au contraire, là, comme on ne s'est pas trop vu, ça s'est calmé?
Non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est bon, pendant le Covid, pendant le confinement, les dealers se sont réorganisés et ils vendaient en gros en fait, le cannabis. Donc, c'était pour les plus jeunes, c'était peut-être plus compliqué. Mais justement, quelqu'un qui est problématique jeune et qui arrête de fumer, il faut vraiment qu'il soit accompagné dans des situations notamment de confinement. Parce que là, il peut pour le coup être très irritable, un syndrome de sevrage assez horrible. Donc, mais là, actuellement, le message, c'est là, le Covid circule, il ne faut pas partager vos joints, par exemple, pour ceux qui fument.
Ouais.
Ça, c'est le message qu'il faut.
Bien sûr, c'est important.
C'est chacun son matériel, on ne partage pas.
Il y a des contaminations comme ça, effectivement,
c'est sûr. Il y en a.
Ouais.
Il y en a.
Donc très attention aussi vis-à-vis du Covid, évidemment. Ouais. Alors justement, si on est parent et qu'on découvre, on va dire qu'il a essayé, pas forcément qu'il est déjà tombé complètement dedans, mais qu'il a essayé le cannabis, qu'il a fumé des joints, peut-être même qu'il nous l'avoue, parce qu'il y a certains enfants qui le disent, maman, hier soir j'étais à une soirée, j'ai craqué. Bon, on ne va pas être content, ça c'est sûr, mais on réagit comment sur le coup?
Il faut en discuter. Le mot-clé de toutes les situations, c'est ne pas rompre le dialogue intrafamilial. C'est le mot-clé.
Donc pas une tarte,
non,
pas
non,
je
non,
te
non.
punis
moi
dans ta
non.
chambre.
Ne pas rompre le dialogue intrafamilial et ne pas se mettre en position de résistance. C'est-à-dire chacun est sur ses... vous voyez, chacun est de son côté et se dit « Ah, c'est pas possible ». Il faut en discuter, il faut débriefer la situation. Et si c'est complexe, il faut rappeler... En tant que parent, les risques de cette consommation.
C'est-à-dire
les risques, c'est qu'il peut avoir un petit accident de la voie publique, des trucs immédiats, pas des trucs à très très long terme.
Oui,
c'est
un cancer du poumon, ils s'en foutent.
Cancer du poumon, ils n'en ont rien à... ils s'en foutent. Que problème cardiaque, ils s'en foutent. C'est plutôt de l'immédiat. C'est
problème d'érection, peut-être. Problème d'érection, on peut leur parler de
ça. Le problème d'érection, ça ne survient pas comme ça.
Ouais.
Donc, c'est pas bon truc. Non, c'est plutôt accident de la voie publique, ne pas mettre de préservatif dans une soirée parce qu'on est un peu défoncé. C'est être irritable, etc.
Jimmy ?
Et justement, si on a des doutes, mais que forcément l'enfant nie, est-ce qu'on doit aller à la pêche aux preuves comme Columbo ? Est-ce qu'on doit les menacer, même d'ailleurs, avec un test urinaire ? Ou au contraire, essayer toujours d'être dans le dialogue, même s'il ne veut pas cracher le morceau?
Docteur Mohamed, moi je suis contre les tests urinaires faits par les parents.
Ouais.
Les tests urinaires...
Il y en a beaucoup, c'est une menace pour les ados.
Ouais,
je vais te faire tester.
Et après, le test urinaire est positif, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Le test urinaire est positif, vous faites quoi?
Je sais pas.
Vous appelez les flics, peut-être? Non, c'est pas ça.
C'est
test urinaire, ça
n'a
aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Dépensez votre argent différemment. Ça existe cette position-là, cette position de « on sait que tu as fumé, on sent que tu as fumé », l'autre dit « bon, moi j'ai pas fumé ». Donc il faut essayer de voir tout doucement comment désamorcer la situation. Si c'est trop complexe, il faut se faire aider par un tiers professionnel.
Ouais. Là, on a parlé de cocaïne, de cannabis, d'alcool, justement, je pense. Je dis cocaïne parce que je pense à des choses. On passe un cran au-dessus, on va dire, avec la cocaïne ou la MDMA, vous en parliez juste avant. Là, si on apprend qu'il est sur des substances encore plus risquées, peut-être, en tout cas dans l'immédiat, en danger immédiat, comment on réagit jeunes... C'est plus grave quand même.
Non, mais les jeunes n'ont pas. Ils ne sont pas dans un phénomène d'addiction maladie. Ils sont plutôt dans un phénomène de comportement à risque, d'expérimentation répétée ou bien d'usage excessif. Moi, je pense qu'il faut mettre tout au même niveau en termes de risque, en tout cas, pas en termes de substance. C'est vrai que
on dit cannabis passons une fois, cocaïne jamais. C'est pas ça. Il faut dire tout.
Non, ouais. Justement, c'est pourquoi s'il a pris la cocaïne, pourquoi il en a pris, c'est quoi le contexte, c'est qui autour. Il n'a quand même pas acheté de la cocaïne tout seul. Et il faut débriefer de la même façon qu'avec
du cannabis. Mais là, les dangers, on peut aller un peu plus loin.
Mais alors, le problème, c'est que oui, la cocaïne, il y a un risque cardiaque qui est majeur une heure après la prise. Hein, il y a un risque multiplié par 24 de faire un accident cardiaque.
Ça, on peut leur dire quand même.
Oui, on peut le dire, ça, il faut insister. La MDMA, c'est hyper dangereux. Et c'est un truc qui est hyper à la mode chez les jeunes. Et on peut dire la même chose pour le protoxyde d'azote. Hein. Je veux dire, c'est hyper dangereux pour la moelle épinière. Il y a des accidents hématologiques, etc. Donc on est dans
On peut aller sur les trucs un peu plus hard et leur faire peur quand même. C'est
oui,
possible.
Oui, oui, oui. On peut parler d'accidents cardiaques. Et ça, pour le coup, ils peuvent en faire un à 14 ans, à 15 ans ou à 16 ans. Mais les choses, c'est. S'il y a ces consommations-là, c'est pourquoi il y a ces consommations-là. Et il faut tout de suite agir. Il ne faut pas laisser traîner.
Mmh. Professeur Carilla, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Alors, juste avant, on vient d'évoquer la façon finalement de réagir si on découvre que son ado fume ou a testé des drogues. Mais on dit souvent, et on le dit souvent dans cette émission, mieux vaut prévenir que guérir. Vous pensez que la prévention à la maison sur toutes ces substances qui peuvent être à risque pour nos ados, elle doit démarrer à quel âge, grosso modo ?
Il faut parler très précocement des choses, en fait. L'alcool, c'est un bon moyen. Le tabac aussi, hein, donc des substances licites, a priori, enfin, voilà, qui sont responsables de plein de morts.
Très tôt, c'est quel âge ?
8-9 ans.
Ah oui, c'est tôt que ça.
Ouais, 8-9 ans, l'alcool, le tabac. Après, si les parents ne fument pas, c'est un peu plus facile. Mais s'ils fument, c'est un peu plus complexe. Et pour l'alcool, on en boit tellement en France que...
Ça, c'est compliqué de dire à son enfant, tu vois, ça c'est dangereux,
ouais,
on en boit le week-end à table.
Mais il faut quand même en parler.
Alors, dans quel mot on utilise
simple, ouais. L'alcool, voilà, il y a des risques. Tu vas être en soirée, on va te proposer à boire. Alors à 8-9 ans, ils ne vont pas en soirée, mais c'est pour préparer un peu les choses. C'est des messages plutôt simples, adaptés à l'âge. Et après,
c'est difficile de dire ça en ayant un verre de rouge à la main,
non,
par exemple.
Non, on ne dit pas en ayant un verre de rouge à la main.
Voilà, c'est ça. La situation, c'est pas celle-là.
Non, c'est des situations simples. On en parle en famille, espèce de petit conseil de famille cool, où on parle de tout et de rien et on place un peu certaines substances. Tout doucement, on placera le cannabis un peu plus tard. Et on parle aussi dedans, on mêle tout ce qui est écran, réseaux sociaux, etc. Parce que ça véhicule
le porno aussi.
Ouais, le porno dedans, ça véhicule. C'est un packaging en fait de prévention. Mmh.
Jimmy, 8-9 ans, c'est tôt. Hein.
Ouais, mais je sais pas, mais j'ai un enfant de 7 ans et un autre de 4 ans. Et on leur a montré, on leur parle de la cigarette parce qu'ils peuvent voir les grands-parents fumer autre. Ouais. Et alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être une très bonne chose, mais on leur montre les images des paquets de cigarettes en disant voilà ton poumon si tu te mets à fumer. Alors je crois que c'est peut-être pas une très bonne chose de la menace en fait sur le long terme et pas productive.
Si vous voulez, les enfants ou les ados, eux, ils visualisent pas ce problème-là. C'est-à-dire que c'est vraiment le message de l'alcool, ça te donne une cirrhose ou un cancer du foie, et le tabac, ça va te donner un cancer du poumon.
Ça peut pas imprimer une image un peu dégoûtante dans leur tête. Moi, je me dis que Jimmy, il a peut-être raison. Non,
ces images-là, ils les intègrent pas en fait, parce qu'ils se disent, et d'ailleurs c'est vrai, ils ont raison. Ils ne vont pas se faire un cancer du poumon à 14 ans. Quoi.
Remis sur le court terme, et quelque chose de vrai, on ne ment pas en disant...
Non, on ne parle que sur du court terme, sur les effets que ça peut avoir. Donc l'alcool, c'est essentiellement l'ivresse. Quoi. Ou c'est essentiellement, t'es en skate, t'as bu un peu trop. Tu peux avoir un accident, tu peux te fracasser, tu peux te casser un membre.
On parle pas de coma éthylique.
On parle de coma éthylique, c'est de l'aigu, ça. Mmh. Donc du coma éthylique en soirée, plutôt. Ça peut être tout seul dans la chambre.
Rapports sexuels non consentis.
Voilà, rapports sexuels non protégés.
De son
rapport à l'autre aussi, le respect de la fille, le respect du garçon. Tous ces éléments-là, ça doit être pris en compte. Voilà, c'est sur des choses simples comme ça. Et on est dans le discours à l'autre qui est plutôt singulier et simple.
Jimmy ?
Si jamais les parents fument du cannabis, c'est une mauvaise chose de l'avouer à ses enfants, ou au contraire, est-ce qu'il faut être hypocrite ?
Ils sont fumeurs actifs ou ils ont fumé ?
Si par exemple des parents fument de temps en temps, alors je ne parle pas de moi évidemment, mais si vous avez des parents qui fument occasionnellement,
il y en a des adultes qui fument du cannabis.
Est-ce qu'il faut. Et s'ils se font un peu prendre la main dans le sac ?
Mieux le faire planquer d'ailleurs.
Mieux faire ça en toute discrétion.
Ça, c'est sûr. Il y a ce truc dont je parlais tout à l'heure, c'est le modeling. Le modeling, c'est quelque chose en thérapie comportementale. C'est quand je serai grand, je ferai comme les grands. Et les modèles de grands, c'est le frère, le grand frère, la grande
sœur. Clairement, fumer devant ses enfants, c'est pas une bonne idée.
Bah non, fumer devant ses enfants, c'est pas une bonne idée. Voilà.
Et comment on fait justement quand on est fumeur de tabac pour dire à son enfant ne fume pas alors que moi-même je suis en train de donner le mauvais exemple.
C'est hyper complexe, mais il faut plutôt adopter maintenant des situations où bien on peut essayer de s'isoler, si c'est possible. Après, on va me dire bon, comment on fait quand on est dans un petit appart, on est 5, 6 dans le même appart et tout. Il y a ce phénomène de modeling à prendre en compte et il y a ce phénomène de risque que justement il fasse pareil. Mais avant ce modeling parental, il y a le modeling entre amis,
eh oui, bien sûr.
Le modèle entre copains. Et le modèle entre copains et copines, il est très fort à partir de la primaire, en fait.
Donc, il faut s'intéresser aussi aux gens avec lesquels nos enfants vont traîner, en fait, l'influence qu'ils peuvent avoir.
Il y a une influence potentielle et c'est souvent pas forcément des milieux défavorisés qui sont une mauvaise influence.
On parlait de l'exemple. Est-ce qu'il faut parler de sa propre, de ses propres... Alors, pas forcément celle actuelle. Jimmy a évoqué des parents qui éventuellement fument du cannabis aujourd'hui. Mais si on a fumé du cannabis quand on était plus jeune ou même si on a été fumeur, moi, je sais que j'ai beaucoup parlé à mon fils de mes tentatives d'arrêt du tabac. Il a vu à quel point c'était difficile. Ouais. Et je me suis servi de ça comme argument pour ne jamais...
Je félicite.
Je suis toujours à 11 mois sans tabac. Voilà.
C'est très, très bien.
Mais oui, voir à quel point c'est difficile, donc d'où l'intérêt de ne jamais commencer.
Il faut en parler, bien sûr, qu'il faut parler de ses propres expériences. Alors, ça dépend quelles expériences on a eues, mais bien sûr qu'il faut parler de ses expériences de consommation. Parce que, de toute façon, ils peuvent vous poser la question quand même.
On ne ment pas. Si on dit, maman, est-ce que tu as déjà fumé des joints ?
Vous posez la question, vous dites la vérité, vous racontez un peu l'histoire autour. Et vous pouvez placer plein d'autres choses en plaçant cette histoire. Parce qu'il y a quand même, vous imaginez, quand vous dites aussi, ouais, moi j'ai déjà fumé des joints pendant mes années, je ne sais pas quoi, à la fac. Vous pouvez placer d'autres messages quand même. Et il y a une confiance, une véritable confiance qui s'instaure en plus entre
et
les
enfants.
Et
regarde ce copain qu'il faisait avec moi, comme il a mal tourné, j'ai n'importe quoi. Bah, mais
d'autres exemples. Mais en tout cas, sur l'expérience perso, ça renforce la confiance du lien en fait.
Jimmy ?
Vous en parliez tout à l'heure, il y a un vrai problème avec le protoxyde d'azote. Ouais. Ça fait des mois qu'on en parle. Est-ce que le message ne passe pas ? Parce que finalement, on dit n'importe quoi. On dit attention, vertige, brûlure de la lèvre. On n'emploie peut-être pas les bons mots pour les sensibiliser. Qu'est-ce qui cloche ?
Il y a eu quand même, là, ça s'est accéléré, les campagnes de prévention. Elles ne sont pas encore assez visibles, je trouve. Mais il y a quand même une communication autour. Mais il faut marteler l'histoire.
Certains parlent de les interdire à moins de 18 ans, enfin au moins de 18 ans, enfin l'achat, la vente.
Si ça se fait, ça se fait. Mais franchement, l'alcool c'est interdit aux mineurs. Il y a de l'alcool, le tabac. Enfin, vous voyez, on s'en fout de ça. C'est interdire, ça marche pas.
Ouais.
Donc la prohibition, ça n'a jamais marché. C'est plutôt quel message fort on donne et qui peut donner ces messages forts. Et je pense qu'il faut, sur le protoxyde d'azote ou d'autres trucs en soirée, etc., il faut faire intervenir des jeunes dans les vrais messages de prévention. Il faut répéter ces campagnes via les jeunes. Il faut utiliser Instagram. Parce que Facebook,
c'est quoi votre message sur cette substance-là, le protoxyde d'azote ?
Protoxyde d'azote, le risque en immédiat, c'est vrai que le premier truc, c'est un truc euphorisant, c'est pour rigoler, etc. Mais il y a des risques. Il y a des risques de brûlure de lèvres, il y a des risques de vertige, mais il y a aussi des risques de chute. Donc il faut quand même utiliser certains trucs de réduction des risques, comme si jamais tu prends du protoxyde d'azote, reste debout, ne sois pas seul, etc. Et puis après, il y a le risque sur la moelle épinière, c'est catastrophe. Catastrophe.
Merci beaucoup, professeur Carilla. C'était trop court, vous reviendrez parler avec nous des adolescents. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur cette période à risque à l'adolescence.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en studio avec nous aujourd'hui. C'est vous, docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris et l'auteur du livre, alors je le montre tout de suite pour ceux qui ont la caméra, Prévenir et soigner l'inflammation chez Hugo Poche. Alors justement, on va parler de la prévention et du traitement donc de l'inflammation par le biais de l'alimentation aujourd'hui. Mais avant ça, avant de passer donc à ces détails de notre assiette, on va peut-être reprendre le sujet à la base et on va faire avec vous peut-être l'inflammation pour les nuls parce que c'est un sujet un peu complexe, mais on va expliquer ça simplement. C'est quoi l'inflammation ?
Alors c'est vrai que quand on parle d'inflammation, on a l'impression qu'on rentre tout de suite dans le domaine médical et de ne pas savoir exactement ce que ça signifie pour soi. Alors d'abord, il faut faire le distinguo entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique.
L'inflammation... Qui n'est pas toujours mauvaise d'ailleurs.
Ah non, l'inflammation aiguë, elle est même vitale. C'est véritablement un mécanisme de survie, de défense contre les agresseurs. C'est un mécanisme qui va permettre de circonscrire cet agresseur, de s'en débarrasser et de guérir. Le problème, c'est quand l'agresseur perdure, l'inflammation s'installe, elle devient chronique et là, d'allié, elle devient ennemie.
Et justement, qu'est-ce qui peut provoquer cette inflammation chronique ?
Alors, un certain nombre de facteurs, dont déjà une mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée, et puis les 3 S, un mauvais sommeil, une sédentarité et un stress, mais également les pesticides dans une alimentation qui ne serait pas bio, ou la cuisson à haute température, ou encore des polluants faire du vernis, de la peinture par exemple, peut déclencher une inflammation. Et puis il y a des phénomènes allergiques.
Vous disiez le stress qui est peut-être donc à l'origine d'une inflammation chronique. C'est embêtant ça dans une société, surtout en ce moment, dans laquelle on est un petit peu tout stressé quand même. Hein.
Très très compliqué à gérer le stress. Alors bien sûr, on ne veut pas, on ne peut pas supprimer ces facteurs de risque, mais on peut essayer de lutter au mieux et d'utiliser tous les petits trucs contre le stress, qui sont d'ailleurs également, qui passent par exemple par une activité physique régulière, par de la sophrologie, de la méditation, enfin tout est possible pour essayer de limiter, même si on ne peut pas supprimer.
Et justement, votre spécialité, c'est l'alimentation. Est-ce qu'il y aurait un certain modèle alimentaire qui pourrait se cacher derrière une inflammation chronique ?
Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle la junk food.
Je vous préviens, Jimmy, c'est exactement ce que vous mangez. Écoutez.
Ah, je n'ai pas vu votre repas. De...
Ouais, moi, je le connais.
S'il n'est pas joli, voilà.
Je pense que vous ne validez pas.
Voilà. Donc, c'est une alimentation qui est riche en acides gras qu'on appelle saturés, en excès, bien sûr. C'est quand on consomme trop de charcuterie, de viande rouge grasse ou de fromage en excès. Et d'acides gras trans. Alors, nous y reviendrons, j'imagine. Mais les acides gras trans, ce sont des acides gras issus de la transformation chimique industrielle des huiles pour donner quelque chose qui est plus fondant sous la bouche. Et le problème de ces acides gras trans qu'on trouve sous le nom de graisse hydrogénée ou graisse partiellement hydrogénée, eh bien, c'est que ça favorise l'inflammation et en particulier les maladies cardiovasculaires.
Il y a aussi l'acide arachidonique, je l'ai bien dit, je crois. Voilà. Concrètement, on le trouve dans quel aliment ? Donc, un acide qui favorise là aussi l'inflammation, c'est quoi ? Et
alors,
dans quoi ?
Comme toujours en nutrition, il faut faire le tri parce que l'acide arachidonique, ça fait partie d'acides gras essentiels qu'on appelle les oméga 6, mais qui sont plus favorables à l'inflammation. Mais on a dit tout à l'heure que l'inflammation aiguë, elle est primordiale. Donc, on a quand même besoin de cet acide arachidonique. Mais quand on veut lutter contre l'inflammation chronique, eh bien, on va limiter cet acide arachidonique. On va le trouver dans le jaune d'œuf, par exemple, dans le beurre et dans certains produits laitiers.
Et ça veut dire qu'on ne peut plus en manger du tout parce que moi j'aime bien le beurre sur ma tartine.
Oui,
il en faut. Le jaune d'œuf, c'est ce qui est le meilleur.
Mais oui, tout à fait, il en faut. Puis je vous l'ai dit, on en a besoin pour notre défense. Mais tout est question d'équilibre. Et en fait, ce n'est vraiment pas ça qui soit le plus méchant au niveau de l'alimentation pro-inflammatoire. Il y a des produits comme des sucre, hein, des index glycémiques élevés, des sucreries qui vont provoquer une modification du travail d'une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va favoriser aussi cette inflammation. Donc, on mange de tout, mais il ne faut pas diaboliser l'œuf non plus. Hein,
surtout. Et est-ce que, du coup, cette inflammation, elle est spécifique aux adultes ou il faut faire attention aux enfants, puisque si on considère qu'ils ont un poids normal, on pourrait se dire qu'en apparence, tout va bien. Même s'il raffole de ses hamburgers, de ses nuggets, c'est tout le tralala, c'est pas terrible, je suppose.
Alors, tout va bien, mais en effet, c'est pas terrible. Et puis, l'éducation nutritionnelle, ça commence jeune. Alors, justement, avec cette génération des enfants et des ados qui consomment beaucoup de cette fameuse junk food, il y a des acides gras trans dans les chips, il y en a dans certains gâteaux du commerce. On sait qu'il faut les limiter à moins de 2 grammes par jour. Le problème, c'est que ce n'est pas marqué sur les emballages.
C'est pas du tout combien on en consomme.
Parfois, c'est pas indiqué du tout. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention à ces jeunes qui vont grandir et qui risquent, à l'âge adulte, d'être une génération plus à risque au niveau des pathologies cardiovasculaires.
Surtout qu'il y a un moment clé, c'est le goûter. Les enfants, ils adorent ces gâteaux industriels. Alors, si on propose des chips, c'est pas du tout un bon goûter.
Moi, quand je fais du pain et du chocolat, parfois ça marche, mais il veut quand même toujours ces petits gâteaux. Hein,
c'est
les orées,
dommage, parce
les machins là, qui sont pas bons du tout, je pense.
Alors, la question aussi d'éducation, c'est à nous, parents, de proposer, de montrer à quel point c'est délicieux, c'est vrai, un bon morceau de pain avec du chocolat. Ça peut être aussi fondant que un gâteau du commerce est pourtant beaucoup moins nocif.
Jimmy, tous les midis, je vais donner un petit secret, j'ai le droit. Hein.
Oui,
il est quand même, je parle souvent de pizza, mais en réalité, il est très sandwich. Il mange un sandwich quasiment tous les midis.
Ouais,
je vous vois sortir de consultation avant d'arriver ici.
C'est
un sandwich rapidement avalé. Oui. Ça, c'est quoi c'est...
Les kebabs aussi, j'adore les kebabs. Ouais.
Ça, pour l'inflammation, ça ne doit pas être terrible.
C'est pas terrible, je crois, les kebabs. Ouais, ne ruinez pas cette journée qui avait plutôt bien commencé.
Non, j'allais vous proposer un sandwich anti-inflammatoire avec. Mais oui, ça existe.
Écoutez bien.
Du pain riche en fibres et en graines, un pain avec une appellation nordique, par exemple viking, drakkar ou baltique.
Ça, vous savez même pas ce
que c'est. Si, parce que ma femme en achète, hein, sinon moi je ne savais pas. Hein, du pain baltique, effectivement.
À acheter en boulangerie, surtout.
Raison.
Mettre à l'intérieur, eh bien, on peut mettre un peu de poulet. Je préfère les produits frais aux produits sous vide. Un peu de poulet et puis de la tomate, une feuille de salade. Et Puis pourquoi pas à côté
vous préparer... êtes en mayonnaise souvent.
Ouais, c'est vrai.
Je préférais un petit peu d'huile d'olive qui est parfaitement anti-inflammatoire parce qu'elle contient d'abord des acides gras monoinsaturés qui sont bons pour la prévention cardiovasculaire et puis une petite molécule qui s'appelle l'oléocantal qui est anti-inflammatoire.
C'est du fromage ? Non, non, ça n'a rien à voir.
Ah bah oui, on peut mettre du fromage, ouais. On peut mettre un petit peu de... C'est pas le cantal de... comme ça, non ? C'est... Mais on peut mettre un peu de chèvre frais, par exemple.
Ça, voilà. Ça vous dit, là ?
Mais c'est pas mal, non, mais si, c'est vrai, parce qu'on pense que c'est un truc inaccessible et qu'on voilà, mais ça, voilà, le pain baltique, je vais retenir du poulet, de la tomate et de la salade.
Voilà. Bah, et du chèvre frais.
Et du chèvre. Non mais franchement,
il est gourmand ce sandwich.
Ouais, vendu. Non mais
ça marche. Mieux que votre ton maillot. Allez, c'est parfait. Docteur Lacronière, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors en studio aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Catherine Lacronière. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et vous êtes également l'auteur du livre « Prévenir et soigner l'inflammation » chez Hugo Poche. Alors à présent, on va passer justement dans notre frigo, dans notre assiette. On peut, monsieur et madame tout le monde, se nourrir avec une alimentation anti-inflammatoire et je crois que la base de cette alimentation anti-inflammatoire. C'est un régime méditerranéen un peu élargi. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. J'aime dire que c'est un régime, plutôt une alimentation qui est à la croisée du régime méditerranéen, qui a fait ses preuves dans la prévention de beaucoup de maladies chroniques, en particulier cardiovasculaires, et de l'alimentation ayurvédique. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un régime méditerranéen avec beaucoup d'herbes et d'épices qu'on utilise déjà dans l'alimentation méditerranéenne. Mais là, on va rajouter du gingembre, du curcuma. Et c'est vrai que c'est une alimentation extrêmement variée et donc extrêmement goûteuse.
Et donc, quand j'entends tradition ayurvédique, moi, je pense à la mâche. C'est-à-dire qu'il faut aussi mâcher. Est-ce que c'est important de manger plus doucement? On a tendance à...
Non, ça, je sais même pas. Moi, je ne savais pas qu'il fallait mâcher dans la cuisine. Vous avez plus de notions nutritionnelles et tout ça
je cache
pensais,
bien mon jeu, Madame Gomez. Ouais. Que croyez-vous?
Alors, de toute façon, c'est très important de manger tranquillement, assis à table et de bien mâcher, de prendre son temps. Parce que tout ça, ça favorise la satiété. Et cette satiété, eh bien, si on mange trop vite, quand les signaux arrivent, c'est trop tard. On a déjà terminé, on a déjà mal au ventre et puis on a souvent des kilos en plus. Or, on sait que, par exemple, l'obésité est une maladie inflammatoire. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Ce qui va l'être aussi, en plus, ce sont les cuissons. Parce qu'il faut cuire à des températures qui ne soient pas trop élevées.
Bon bah Jimmy, c'est le roi du barbecue en été. Donc là, je pense qu'encore une fois, il a tout
après
trop.
Sandwich.
Je balance.
Hier, je vous assure, j'étais prêt à sortir le barbecue pour faire de la viande parce que je me suis dit, elle aura un meilleur goût. Mais je me suis dit, il pleuvait, c'est pas très
bien. Aidez-le, docteur Lacronière.
On peut quand même faire du barbecue à condition de ne pas faire trop souvent. Et puis, on va faire mariner les viandes. Et par exemple, on va plonger votre viande dans du citron parce que cette vitamine C va limiter la formation de ces molécules délétères qu'on appelle les produits terminaux de la glycation. C'est en fait une réaction chimique, la réaction de Maillard entre protéines et sucre qui provoque des molécules non seulement pro-inflammatoires, mais éventuellement même possiblement cancérigènes.
Alors c'est quoi la cuisson anti-inflammation du coup, puisqu'on y est ?
Alors on essaye de garder le maximum de nutriments, donc la cuisson vapeur par exemple.
Pas à l'eau, dans la casserole à l'eau, c'est pas terrible.
Le problème de l'eau, c'est qu'on perd une partie des nutriments. Alors si vous réutilisez l'eau et que vous la consommez, finalement on s'en sort pas mal. Et puis il y a la cuisson au wok, à condition qu'on le fasse longtemps et à petite température, et tout ça nous permet de rajouter nos herbes et nos épices.
Alors pour l'instant, on va s'intéresser aux personnes bien portantes. On fera un petit focus sur certaines maladies. Mais la base d'une alimentation sans inflammation, c'est une alimentation plutôt végétale, c'est ça ?
Exactement, végétarienne. Beaucoup de fruits et de légumes qui sont la pierre angulaire de cette alimentation, auquel on va rajouter des céréales complète. Donc, il y a du pain dans notre alimentation, à condition qu'on ne soit pas, bien sûr, intolérant au gluten. Dans ce cas-là, on va choisir des pains sans gluten. Et sinon, tous les autres favoriseront des farines complètes. Et il y a des féculents complets également et des légumineuses. Tout ça pour avoir un index glycémique élevé, bas, et des fibres. Et on n'oubliera pas les petits plaisirs de la vie avec les antioxydants qu'on va trouver dans le chocolat noir, par exemple. Un petit peu de vin, mais sans excès. Et puis du thé. Voilà, c'est une alimentation donc assez large.
Ça veut dire qu'on oublie la viande complètement ?
Alors non, il y a de la viande, mais il y a moins de viande rouge. Ça, c'est sûr. On n'a pas d'implication inflammatoire à partir du moment où on consomme de la volaille ou de la viande blanche. Par contre, la viande rouge, et c'est ce que dit d'ailleurs le CIRC, hein, qui est le Comité international de la recherche sur le cancer, c'est que de consommer plus de 100 grammes de viande rouge par jour ou 50 grammes de viande transformée, par exemple, c'est tout ce qui va être...
Une saucisse.
Saucisse, eh bien, cet excès de consommation de viande rouge est potentiellement cancérigène et l'excès de consommation de viande transformée, elle, est cancérigène.
Alors, vous l'avez dit, il faut privilégier des aliments avec un index glycémique bas, mais je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Moi, je l'entends souvent et puis en détail, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
Oui, parce que vous savez, nous, en nutrition, on aime bien faire évoluer, changer et embrouiller tout le monde, finalement.
Alors, soyez clair.
Désembrouillez-nous. Avant, on parlait de sucre rapide et de sucre lent.
Ah, c'était bien, moi, ça, je comprenais bien.
Oui, mais... c'était assez clair, sauf que une chercheuse de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Jenny Brand-Miller a décidé a tout à fait eu raison de changer les choses avec un tableau. Elle a pris comme référence le sucre de table. Elle a donné à ce sucre de table l'indice 100 parce qu'on a regardé ce qui se passe après consommation de sucre de table et on regardait l'augmentation de sucre dans le sang. Et on a comparé tous les aliments
à ça.
Voilà. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait les classer en trois catégories, index glycémique bas, moyen et élevé. Et c'est ce qui est élevé qui peut avoir donc un impact pro-inflammatoire. Et là où on s'est un petit peu compliqué les choses, avant les pâtes, on le faisait par ça faisait partie des sucres lents. Et bien aujourd'hui, on sait que des pâtes avec une farine blanche vont avoir un index glycémique plus élevé.
Je crois que la cuisson des pâtes compte aussi pour l'index glycémique. Plus elles sont cuites, moins c'est bien.
Exactement. Donc en fait, pour avoir l'index glycémique parfait, il faut les manger al dente.
À présent, on va s'intéresser à quelques maladies dans lesquelles l'inflammation est présente. Et on va commencer par une qui est très fréquente dans notre pays puis ailleurs, hein, l'arthrose. Une maladie qu'on peut améliorer, mais pas guérir, mais dans laquelle il y a donc de l'inflammation et dans laquelle vous dites, vous, dans votre livre, que l'alimentation est très importante. Qu'est-ce qu'on mange quand on a de l'arthrose ?
Oui, alors c'est une inflammation chronique et qui fait souffrir au quotidien pratiquement 900 000 personnes. Donc, c'est vraiment une pathologie très commune. On a montré, et ça, ce sont les études de recherche qui ont montré qu'une alimentation végétarienne permettait, non pas de supprimer, vous le disiez très bien, mais de limiter les signes et d'améliorer le bien-être au quotidien. Une alimentation végétarienne auquel on va rajouter des épices. On parlait du curcuma tout à l'heure, mais également le gingembre qui peut avoir une action
Et vous dites aussi qu'il faudrait aller chez eux, leur mettre... pas les bombarder, mais y aller de bon cœur sur les oméga-3.
Exactement. Alors, les oméga-3, ce sont des graisses qui ont une forme chimique, on les appelle insaturées. Ce sont également des acides gras essentiels. Le corps ne sait pas les fabriquer, donc on est obligé de les récupérer dans l'alimentation. Et les oméga-3 sont véritablement très anti-inflammatoires. Il y a aussi beaucoup d'études dans l'arthrose qui montrent que ça lutte contre cette inflammation.
C'est l'huile de lin, par exemple, l'huile de...
Tout à fait, deux origines. Une origine végétale, l'huile de lin, mais également l'huile de colza, l'huile de noix. On les trouve aussi dans les graines et dans les oléagineux. Et puis, il y a une source animale avec les poissons gras. On va choisir plutôt des petits poissons, parce que vous savez que les gros poissons prédateurs sont plus riches en toxines diverses et variées. Donc, on va se diriger vers le maquereau, vers la sardine. Voilà, très riche en oméga-3, sans pour autant avoir...
Plus étonnant, dans votre livre, vous parlez du rôle de l'alimentation dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment qu'on ne va pas traiter une maladie d'Alzheimer avec, mais les données, malgré tout, s'accumulent en faveur d'un régime méditerranéen qui pourrait protéger la maladie.
Exactement. C'est assez étonnant d'ailleurs de lire toutes ces études parce que bien entendu, on ne peut pas éviter Alzheimer. On rappelle qu'il y a une notion de génétique qui est incontournable malheureusement dans cette pathologie. Mais il y a des études qui nous disent qu'en mangeant assez tôt dans la vie une alimentation spécifique, on pourrait repousser peut-être les premiers signes. Alors on a essayé...
Donc l'inflammation dans le cerveau, parce qu'il y a de l'inflammation dans Alzheimer, c'est ça ?
Oui, il y a de l'inflammation à la fois au niveau du neurone et autour, dans ce qu'on appelle la microglie, qui sont toutes ces cellules autour, tout cet environnement des neurones, microglie qui est activée, qui est inflammée et qui va aggraver les symptômes, surtout quand ça se passe dans l'hippocampe, donc au niveau de la mémoire. Mais il y a un autre régime qui est très proche finalement, qui s'appelle le régime MIND, M-I-N-D, comme l'esprit, qui est l'association d'un régime méditerranéen, déjà, et d'un régime DASH, qui est le régime contre l'hypertension.
D'accord.
Et là, on a aussi de très bonnes études, mais en fait, finalement, on est encore une fois dans un régime anti-inflammatoire, un régime méditerranéen élargi.
Alors du coup, est-ce que le curcuma pourrait aussi, vous avez dit, c'est anti-inflammatoire, pour le cerveau, ça marcherait aussi? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous dire, allez-y, bombardez-vous de curcuma, en plus pour le cerveau.
Il bombarde d'oméga 3, de curcuma, Jimmy bombarde.
Tout ça dans la limite, on sait, on le redit encore une fois, malheureusement, hein, cette pathologie ne peut pas être guérie et a priori pas évitée.
Sous quelle forme d'ailleurs le curcuma? Parce qu'il existe en poudre, là, dans les... Bon, je ne citerai pas de marque, mais est-ce qu'il vaut mieux l'acheter frais? On le voit aussi en racine maintenant sur des marchés. C'est mieux de consommer comment le curcuma?
Alors c'est vrai que le curcuma, il faut faire attention à la bonne origine des poudres qu'on achète, parce qu'on peut acheter des produits qui sont vieux ou qui sont mélangés. Donc il faut vraiment faire attention
le plus pur
à l'origine,
les bio, si possible.
Exactement. Ouais. Et puis on peut utiliser, comme pour le gingembre d'ailleurs, ces racines qu'on va râper pour avoir cette jolie couleur orange.
Jimmy, vous avez faim, je crois, je le sens.
Exactement, j'adore parler cuisine. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ou deux recettes si on a le temps? Si ce soir on veut se faire un petit plat anti-inflammatoire de saison, une salade de brocoli.
Je prends papier crayon, moi.
Oui, voilà, alors ça, je rends hommage à Ruben Sarfati qui est à l'origine de ces recettes. En fait, nous avons fait ce livre ensemble. C'est-à-dire, moi, il m'a un peu appelé Madame la Censure parce que je lui disais pas cette huile, pas ce sucre, pas cette cuisson. Donc, ce sont ces recettes.
Vous lui avez dit voilà tes ingrédients, maintenant débrouille-toi.
Exactement. Alors, donc, il y a par exemple une salade de brocoli.
J'adore les brocolis.
Voilà, avec une vinaigrette à l'ail et le quinoa soufflé. Mmh. Brocoli, pourquoi? Donc, déjà légumes avec des fibres.
Quelle page, juste pour me dire, on se fait un truc entre nous là.
Alors c'est 43.
Alors, très bien, voilà. 43, on y va.
Donc en plus dans les brocolis, il y a des molécules qui s'appellent les glucosinolates qui sont potentiellement anti-cancer. Une vinaigrette à l'ail et puis le quinoa qui est un équivalent de légumineuse avec non seulement des fibres mais un index glycémique bas. Alors il vous faut pour cette recette, pour 4 personnes, un brocoli, 2 cuillères de moutarde de Dijon, 2 cuillères de vinaigre de vin rouge. J'aurais dû prendre, excusez-moi, mes lunettes.
4 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 4 cuillères à soupe d'huile de colza, 100 g de choux de Bruxelles, un oignon rouge, un demi-bouquet de cerfeuil, 100 g de roquette, 100 g de quinoa soufflé. Alors bien sûr, on retrouve la recette dans le livre, on ne va peut-être pas la détailler tout de suite, mais je crois que vous vouliez nous donner aussi un petit dessert, il me semble.
Oui, j'avais envie de vous donner un
Jimmy voudrait la petite complète, là, hein, voilà. Le plat, le dessert pour ce soir. Il sort, il va faire les courses. Là.
Exactement, avec un crumble qui est de saison, avec de la rhubarbe et un crumble à l'huile d'olive, puisque comme ça, on utilise notre huile dont on a parlé tout à l'heure avec son oléocantal. En plus, c'est très facile à faire. Alors, c'est moi qui ai mis les étoiles hein, dans ce livre. Donc, si vous voyez qu'il y a une ou deux étoiles, on peut y aller.
C'est bon, c'est pour vous, Jimmy. Deux étoiles, vous pouvez y aller.
Mélanie, je vous laisse lire les ingrédients,
oui,
peut-être.
Il faut 1 kg de rhubarbe, 2 cuillères de sirop d'agave, 100 g de farine de châtaigne, 30 g de poudre de noix, 40 g de sirop d'érable, 100 g d'huile d'olive, 1 cuillère à café de bicarbonate, la recette dans le livre. Et donc, ce dessert est délicieux. Vous l'avez goûté, j'espère?
Alors, il est délicieux, il est diététique. J'ai tout goûté. Alors, je dois dire que juste avant le premier confinement, nous avons fait des photos pour le livre. Donc, j'ai commencé à confiner avec les recettes de Ruben et ça a été absolument extraordinaire.
Merci beaucoup, docteur Lacronière, pour tous ces conseils, y compris culinaires. Et donc, j'en profite pour signaler ce livre qui vient de paraître, La cuisine anti-inflammatoire gourmande, que vous avez coécrit avec le chef Ruben Sarfati chez Hugo New Life. Merci encore, docteur.
Merci à vous.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15 heures. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, on aimerait bien savoir à partir de quand on peut parler d'addiction au sexe. À un moment donné, on en parlait tout le temps de cette histoire d'addiction au sexe. On en parle un peu moins ces derniers temps, mais à partir de quand on considère que ça devient vraiment un comportement addictif?
Le principe de l'addiction, c'est quand on est plus libre de faire sans. Quel que soit le sujet, la sexualité comme la nourriture ou
le tabac, l'alcool.
Exactement, c'est-à-dire que si dès lors que je m'en prive, je suis en souffrance, je suis addict. C'est-à-dire que ce n'est pas, la sexualité ne remplit plus son rôle de communication avec quelqu'un parce que je crée une histoire, j'écris une histoire avec ce quelqu'un, mais c'est un besoin viscéral pour moi, sans quoi je crois que je vais défaillir, que je vais mourir, que je vais
être en
me
manque,
perdre, que je vais être en manque, que je vais déprimer, que je suis en danger en réalité.
Est-ce que c'est si fréquent? Parce qu'on a l'impression que, de façon générale, un homme est addict au sexe, alors qu'il faut différencier, vous l'avez dit, le plaisir de la véritable addiction. Est-ce que ça reste quelque chose à la marge?
Alors, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des tas de mots qui sont... Enfin, on a l'idée, par exemple, qu'une femme nymphomane, c'est une femme qui est géniale parce qu'elle en a envie tout le temps, c'est formidable, alors que c'est plutôt une femme en souffrance parce que justement, il lui faut absolument faire l'amour pour se rassurer quant à elle-même. Et donc, on laisse à penser que ça, c'est formidable. Du côté des hommes, on dit il est complètement addict, comme si c'était un surhomme, parce que c'est un homme qui ne serait pas addict, qui ne pourrait passer une journée sans faire l'amour, ou plusieurs journées sans faire l'amour, serait finalement un petit joueur et qui pourrait se poser la question de savoir si sa sexualité est normale. Non, nous pouvons, rappelons-le, nous avons été adolescents, notre puberté installée, nous n'avons pas fait l'amour du jour au lendemain et nous avons passé des semaines, des mois, des années à élaborer sur le sujet de la sexualité pour passer à l'acte et pour faire grandir cette sexualité. Et notre sexualité, ce n'est pas parce qu'on est rentré dedans qu'elle n'a pas matière à être nourrie et grandir encore. Et pour grandir encore, il faut qu'elle soit libre et donc certainement pas un besoin comme on a le besoin de respirer, sans quoi on pourrait tout d'un coup tout perdre de nous-mêmes.
Je connais des personnes qui sont obligées, c'est des personnes célibataires, qui sont obligées chaque semaine d'avoir des relations sexuelles avec différentes personnes. Est-ce que ça en fait pour autant des accros au sexe, le fait de vraiment être à la recherche tout le temps de, comme on appelle aujourd'hui, des plans cul, quoi?
Alors, ce n'est pas nécessairement des accros au sexe, parce que ces mêmes personnes, certainement, par exemple, dans le cadre d'une relation entretenue, ne feront pas nécessairement l'amour tout le temps. Donc, ce n'est pas tant le sexe que le sexe qui est le moyen d'une existence dans le regard de l'autre. Dès lors qu'ils sont dans la relation avec quelqu'un, ils existent pour ce quelqu'un par le lien amoureux, comme par hasard, la sexualité perd de son charme ou perd de son intérêt primordial. Donc, c'est pas le fait d'avoir à faire l'amour tout le temps qui fait qu'on est addict. Ce qu'on est addict, c'est quand on est en souffrance, et que cette souffrance nous fait souvent d'ailleurs être agressif avec les autres, parce qu'il y a une véritable difficulté à faire avec soi-même en dehors de ce vécu sexuel.
Encore une fois, on a l'impression que c'est plus un problème d'hommes. Est-ce que les femmes peuvent être aussi concernées par ça ?
Absolument, oui. Il y a des femmes qui sont vraiment dans...
Vous avez des demandes de consultation sur ce motif-là, d'un point de vue féminin ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a plus de demandes sur la difficulté d'avoir du désir que sur une urgence...
Ouais, c'est quand même fréquent dans l'autre sens, dans l'autre motif.
Oui, parce qu'encore une fois, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les hommes, il y a peu de consultations sur ce sujet-là, tout simplement parce que notre société considère que le maître étalon de la valeur d'un individu, c'est sa compétence à faire l'amour. Et dès lors qu'elle est complètement débridée, même et voire sans limite, eh bien on considère que ce n'est pas un problème. Alors que dès lors que quelqu'un ne fait pas l'amour pendant une semaine ou 15 jours, on se dit un problème.
Il y a un petit souci, là.
Donc là, il se retrouve dans des cabinets. Donc en fait, c'est très intéressant parce que le fait qu'il n'y ait pas une demande ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une problématique.
Bien sûr. Jimmy, vous disiez, pardon.
Non mais je disais, est-ce que, par exemple, on a l'impression que c'est un problème de célibataire? Est-ce qu'on peut être en couple et addict au sexe? Est-ce que l'état, le fait d'avoir une relation ou pas, ça influe justement sur ça?
Vous avez des personnes qui sont en couple, mais qui, même en couple, sont ou très en demande, et du coup ça devient presque une tyrannie dans la relation, ou ils vont à part, en dehors de leur couple, pour aller satisfaire une urgence, ou alors c'est la masturbation qui remplit ce rôle-là, parce qu'il y a une véritable anxiété. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'expression d'un pouvoir tout puissant de l'individu qui s'épanouit dans sa virilité ou sa féminité, mais bien une anxiété majeure.
Ils doivent consulter ces gens-là quand même. C'est mieux d'aller chercher de l'aide.
Oui, sauf qu'il faudrait bien sûr qu'ils arrivent à reconnaître eux-mêmes que c'est une anxiété qui les guide. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête de leur laisser penser qu'ils sont des surhommes ou des surfemmes, bien au contraire.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse avec Mathieu Noël et Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Et moi, je vous dis à demain.